Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir encore pour ce moment d'intimité si particulier qu'est la Libre Antenne. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à minuit pour échanger sur les choses de la vie, sur nous, sur les autres, sur ce qui nous apparaît comme bien ou mal, comme vrai ou faux. Dans son livre « L'Évangile selon Pilate », Éric-Emmanuel Schmitt écrit « Qu'est-ce que la vérité ? Il y a la tienne, il y a la mienne et celle des autres. Toute vérité n'est que la vérité de celui qui l'a dit. Il y a donc autant de vérité qu'il y a d'individus. » C'est pour ça que souvent je vous parle de votre carte du monde. Nous avons tous la nôtre en fonction de notre vécu, de nos croyances, de nos blessures. Et quand celui qui est en face n'a pas la même carte que nous, et que quand on les superpose, elles ne coïncident pas, alors on pense spontanément que c'est l'autre qui n'a rien compris. En réalité, il a juste une carte du monde différente de la nôtre. C'est pour ça qu'il est intéressant d'essayer de comprendre par quel prisme l'autre voit la vie, pour arriver à le comprendre. Parlons de nous, des autres et de la vie ce soir, si vous le souhaitez. Toute l'équipe de la Libre Antenne vous attend, Frédéric Dervin à la réalisation, Fanny et Kelvin au standard. Pour me joindre à ce micro, vous faites le 39-21 et vous vous laissez guider. Profitez-en, il y a de la place ce soir, 39-21. Et si vous avez envie de réagir, de participer par SMS, vous faites le 7-39-21, suivi du mot nuit et de votre message. Voilà, vous savez tout.
Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Bonsoir Émilie.
Bonsoir Sabine.
Alors, on démarre cette émission avec vous. Alors, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, je vous ai reçu sur cette antenne il n'y a pas très longtemps.
Oui, mardi dernier.
Mardi dernier. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire un petit résumé de ce qui avait été dit ?
En fait, je voulais discuter des incompréhensions et puis de ce qui m'est arrivé étant jeune et que ça me bloquait... Enfin, ça m'a toujours bloqué tout le long de mon parcours, aussi bien sentimental que professionnel et que personnel, en fait.
D'accord. Et pour quelle raison est-ce que vous me rappelez ce soir, alors ?
Parce que je sais que j'avais entendu sur le podcast quelque chose qui m'a interloqué. Mmh. Et je voulais juste comprendre, quand vous aviez dit que... qu'il y avait quelque chose en moi, mais qu'il y avait deux personnes en moi, en fait. Et c'est vrai que ça m'a un peu surprise. Et voilà, en fait.
Alors, hors contexte comme ça, c'est un peu dur, est-ce que vous me faites ?
Oui, je sais. Enfin, c'est que c'est un peu compliqué de tout expliquer. Enfin, c'est...
Je ne pense pas avoir parlé de deux personnes, je pense avoir parlé de deux parties, probablement.
Oui, voilà, c'est ça, oui.
Oui, parce que ça n'a rien à voir. Deux personnes, ça serait de la schizophrénie, en l'occurrence. Non, je parle de... Parce que nous sommes tous faits de parties. Qu'est-ce qui vous a embêté dans ça ? Nous ne sommes pas faits d'un bloc, nous avons différentes parties de nous qui ne fonctionnent pas forcément toujours main dans la main. Si, par exemple, vous fumez et que vous voulez arrêter de fumer, il y a une partie de vous intellectuelle, intelligente, qui veut arrêter, et il y a une partie de vous qui continue.
Oui, c'est vrai, oui.
C'est comme ça pour tout. Quand on veut arrêter de je dis bouffer volontairement et pas manger, quand on veut arrêter de bouffer, de se remplir de chocolat, de sucreries, et qu'on le fait quand même, il y a une partie de vous qui le fait, alors que l'autre partie, intellectuelle, se dit « mais moi, je veux pas ça, je veux pas ça ouais. ». On est tous faits de plusieurs parties. Et c'est ça qui est tellement compliqué, c'est d'arriver à harmoniser toutes ces parties.
Exactement.
Mais oui. En l'occurrence, il s'agissait de quoi avec vous ? Je ne me souviens plus là sincèrement de quelle partie on parlait, dans quel domaine il y avait des parties qui n'étaient pas d'accord là.
Quand je vous avais dit que, vous avez vu qu'il y avait deux parties, comme vous avez dit, et il y en a une qui voulait faire des choses et qui était rigolote et tout ça, et puis il y en a une qui était un peu plus enfermée, et vous m'avez dit, oui, c'est cette partie-là qu'il faut...
Libérer. Ah oui, on avait parlé d'un bélier pour défoncer la porte.
C'est ça.
C'est ça, oui. Et oui. Mais c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'on a une partie de soi qui est souvent ce qu'on appelle l'enfant intérieur, qui est encore en boule. Et c'est aussi pour ça que souvent des gens me disent j'ai fait 10, 15 ans de thérapie, j'ai bien compris pourquoi je vais mal, mais je n'arrive pas à aller mieux. Parce que quelquefois, il faut aller débloquer l'autre partie. La partie intellectuelle, une fois qu'elle a... Pardonnez-moi. Une fois qu'elle a parlé, qu'elle a réfléchi, qu'elle a analysé, qu'elle a compris, c'est bien, c'est déjà un grand pas en avant. Mais ça ne veut pas dire que la partie émotionnelle est pour autant réparée tout de suite.
D'accord.
Et chez vous, il y a une partie intellectuelle qui avait bien compris les choses, qui était prête à avancer Et puis il y a l'autre partie qui était encore blessée et qui disait, qui l'image que j'ai toujours, c'est cet enfant, vous savez, qui se met la tête sur les genoux et qui a besoin qu'on vienne l'aider, qu'on vienne le libérer de plein de choses.
Oui, parce que vous m'avez dit aussi que je me rappellerai de l'histoire du bébé faire et être.
Ah ben oui, est-ce que vous vous en rappelez?
Oui.
Alors je vais le résumer pour les gens qui n'étaient pas là, parce que c'est frustrant de nous écouter discuter si on n'a pas eu le début de la conversation. Vous me parlez d'un problème de valeur, et je vous disais que la valeur n'a rien à voir avec ce qu'on a pu vous dire ou vous faire, ou ne pas vous dire ou ne pas vous faire. Et je vous avais posé la question, est-ce qu'un bébé qui vient de naître, est-ce que vous avez l'impression qu'il a de la valeur, qu'il est important? Et vous m'avez dit, bah oui, bien sûr. Ouais. Et je vous ai dit, mais pourtant, il n'a rien fait. Il n'a rien dit, rien fait. Et donc, sa valeur à ce bébé, elle ne dépend pas de ce qu'on lui a dit ou de ce qu'on lui a donné ou pas donné, de ce qu'il a fait ou pas fait. Elle dépend simplement du fait qu'il est en vie. Et être en vie, c'est déjà avoir de la valeur.
Oui, exactement, oui.
Et que donc, votre valeur à vous, elle ne dépend pas de ce que vos parents vous ont donné ou pas donné, parce qu'une fois de plus, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Quelquefois, les parents ont peu et peuvent peu. Malheureusement pour l'enfant, c'est comme ça. En même temps, c'est aussi comme ça qu'on se forge un caractère et qu'on apprend des choses.
Oui.
Et qu'on devient certainement plus fort que d'autres dans la vie. En tout cas, je sens que ça a cogité depuis qu'on s'est parlé, Émilie.
Oui.
Bah, c'est un peu le but aussi.
Hein. Bah oui, parce que c'est vrai que quand on...
Ah, allô ? Allô ?
Allô ?
Là, je n'ai plus que le forfait voyelle, là, il manque les consonnes. Ah, Émilie a dû bouger. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit disque et on va voir si on peut la récupérer peut-être sur un numéro fixe, ça sera plus facile. À tout de suite, ne bougez pas.
La Libre Antenne d'Europe 1, Sabine Marin accompagne vos nuits.
Émilie, on me dit qu'on vous a récupéré.
Oui.
Alors, vous savez comment ça se passe? Vous restez un bras en l'air, une jambe tendue, vous ne bougez plus. qu'on vous capte.
Oui, ça y est, c'est fait.
Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous travaille là depuis qu'on s'est parlé de tout ça?
Bah, c'est que quand je fais le point, c'est vrai, de ma vie, en fait, bah, je vois que j'ai perdu du temps à chercher un homme que je voulais, mais que je n'ai pas trouvé, en fait. C'est ça que je vois. Enfin, je me suis trop mis... aussi dans les affaires de famille, j'ai pas pensé à moi, je me suis mis de côté, j'ai pas trop de caractère, puis j'ai l'impression d'être encore une petite fille, quoi, en fait. J'ai pas grandi comme une femme pour moi, en fait.
Moi, je dirais quand on a déjà cette capacité d'analyse, c'est qu'on est quand même mature. Hein. Alors c'est là ouais, que vous disiez, il y a encore cette petite fille en vous, il y a encore cette partie-là. Mais pas que, vous êtes aussi un ensemble de beaucoup de choses. Et souvent, quand les gens me disent « j'ai perdu du temps », mais oui, mais on réalise ça le jour où on a acquis assez d'expérience et de maturité pour comprendre les choses différemment. C'est facile de dire 10 ans après « j'aurais dû ou j'aurais pas dû ». On n'avait pas à l'époque les compétences pour.
C'est vrai.
Mais oui.
Mais c'est vrai que... Enfin, je sais que ma mère m'avait dit « bah écoute, réfléchis un peu, t'es assez grande ». Enfin, voilà, c'est vrai qu'elle me le disait souvent. Donc, c'est vrai que ça aussi, bah, j'écoutais que moi parce que je me suis mis en tête des choses. Puis en fait, je vois qu'au bout d'un temps, ça s'est pas passé comme moi je le voulais. En fait, je voulais me marier, je suis pas mariée. Je voulais avoir quelqu'un de stable et de régulier avec moi pour passer ma vie. Bah, j'ai pas du tout. Je vais avoir des enfants, j'en ai pas. C'est vrai que ça fait un peu beaucoup, en fait.
Mais dire à un enfant, comme votre mère l'a fait, « t'es grande », ça ne sert pas à grand-chose. Un enfant, il faut lui prouver qu'il est grand, qu'il a des capacités. Il faut l'aider à construire cette confiance en lui, cette estime de lui, en lui prouvant qu'il est capable et qu'il est grand. Simplement lui dire « mais t'es grand maintenant, c'est bon », ça ne sert pas vraiment à rien. Et vous n'avez peut-être pas été assez rempli de cette confiance en vous.
Non, c'est vrai que déjà c'est vrai que enfin mes parents nous ont jamais fait confiance.
Bah oui, voilà.
C'est vrai que moi je me rappelle d'une fois j'étais avec mon cousin et puis son père lui a donné la carte bleue et il savait déjà le code de sa carte bleue et puis moi je l'ai donné, quoi, en fait. Il avait 10 ans, quoi, donc c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre, mais après je dis oh, bon bah
Pourquoi lui et pas vous, quoi?
Bah, c'est ça, j'ai dit bah, pourquoi ils nous font pas confiance autant, quoi, en fait.
Et aujourd'hui,
Parce qu'en plus, il était plus jeune que moi, donc.
Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, quelle serait d'après vous la raison, l'explication à ça?
Comme quoi ils m'ont pas fait, en quoi ils nous ont pas fait confiance?
Ouais.
Ah bah alors là.
Vous savez pas du tout.
Non, je vois pas. Je
Ouais.
sais pas du tout.
Et pourtant, c'est tellement important. Vous voyez, un enfant à qui on répète tous les jours, un petit enfant qui apprend à marcher et qui se casse la figure avec sa couche-culotte, et à qui on dit « Attention, tu vas tomber !» Et à qui on répond tous les jours « Attention, tu vas tomber !» Toute sa vie, à chaque fois qu'il courra, il se cassera la figure. Mais à chaque fois qu'il faudra faire vite en amour ou dans les affaires, il se cassera la figure aussi. C'est ce qu'on appelle les ancrages négatifs de l'enfance. Alors que si on disait à un enfant, au lieu de lui dire « Attention, tu vas tomber, regarde où tu mets les pieds, sois prudent et tu vas y arriver. » Là, on apprend quelque chose à l'enfant. On lui enseigne la confiance et l'attention.
Ah, c'est vrai que c'est plus encourageant, dit de cette façon-là.
Mais bien sûr. Et malheureusement, on a tous plein d'ancrages comme ça négatifs que nos parents n'ont même pas eu conscience de nous avoir refilés, mais qui sont bien là. Et quand on en prend conscience, on arrive à s'en libérer aussi de ces ancrages-là. Parents, ça devrait être un métier qui s'apprend à l'école, vraiment.
C'est vrai.
Ça éviterait bien des soucis plus tard.
C'est vrai.
Et oui, on y est pas. C'est comme quand un enfant arrive et on n'a aucun mode d'emploi. Et alors après, on est comme vous dites là, on dit « Ah oui, mais si j'avais su, j'aurais fait comme si, j'aurais fait comme ça. » Ben oui, mais à l'époque, je ne savais pas. Moi, la première, hein, si j'avais tous les outils à l'époque pour élever mon fils, tous les outils que j'ai maintenant, j'aurais fait très différemment. Mais je ne les avais pas. Ben voilà. C'est comme ça. Les choses arrivent à un moment donné sur notre chemin de vie et je pense qu'il faut accepter ça aussi. Par contre, quand elles sont là, il ne faut pas les refuser. Il faut vraiment les prendre, ces outils-là. Comment vous voyez votre avenir maintenant, vous, Émilie?
Interrogatif, franchement interrogatif, mais c'est vrai que la dernière fois quand on avait parlé ensemble, c'est vrai qu'il y avait plein de points, je me suis dit, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais pour moi en fait. Et c'est vrai que mon avenir, ben, je l'espère heureux, je l'espère dans un élan, même si je fais la tortue. que j'y arriverai, quoi, en fait, que j'arriverai à mes projets, à mes buts. Mais c'est vrai que moi, depuis, enfin, je sais que moi, je me rappelle quand j'étais petite, qu'on me disait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, j'avais aucune réponse. Enfin,
Et
c'est tout
oui.
le flou total, quoi.
Et c'est pour ça que ma question n'est pas anodine. Quand je vous demande ce que vous voulez faire, vous me dites point d'interrogation. Si vous montez dans votre voiture et que vous réglez votre GPS, on va vous demander un endroit. Alors vous allez mettre une région.
Oui.
Mais ça serait quand même plus pratique pour arriver de mettre une ville. Et puis ce qui serait encore mieux, c'est de mettre une rue et un numéro de rue. Ben dans la vie, c'est pareil. On met les choses en place. On se fait un parcours, on se fait des étapes. On prend des décisions, on avance. Sinon, on monte dans sa voiture et on attend qu'elle trouve le chemin toute seule. Ben, on peut attendre un bon moment quand même.
C'est clair.
Quel que soit le temps que ça prendra, le temps passe de toute façon.
Oui.
Donc ça, ce n'est pas une excuse. Mais par contre, définir ce qu'on veut pour y aller, ça me paraît juste essentiel. C'est comme ça, j'en parle souvent aussi, quand tous les gens me disent ce qu'ils ne veulent pas. Une fois de plus, j'avais pris l'exemple du restaurant. Vous n'allez pas dans un restaurant en disant au serveur « voilà tout ce que je ne veux pas ». Vous ne montez pas non plus dans votre voiture en mettant dans le GPS toutes les adresses auxquelles vous ne voulez pas aller.
C'est ça.
Donc à un moment donné dans la vie, il faut fonctionner de la même manière.
Mais quand vous me posez cette question, c'était par rapport à quoi?
Qu'est-ce que vous faites pour qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous maintenant, pour construire la suite? Pour être heureuse? Pour arriver à ça, quels sont vos objectifs? Et oui.
C'est vrai que c'est toujours le point d'interrogation, mais c'est vrai que j'ai envie des choses. Mais c'est comment faire pour y arriver, quoi, en fait. C'est ça qui me... Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui me bloquent. Mais si je réfléchis trop, en fait, c'est toujours comme ça, en fait, que ça se passe avec moi. Et c'est vrai que j'aimerais bien passer à l'étape suivante, à ne pas me poser de questions. Et comme vous avez dit, prendre une direction, la suivre, même s'il y a des embûches, et bien passer par autre chose, ou passer par un raccourci, ou par un autre chemin.
Commencez par lister vos objectifs de manière très simple, que ce soit des objectifs amoureux, professionnels, amicaux, tout ce que vous voulez, matériel. Commencez déjà par les fixer, ces objectifs. À vous les répéter tous les jours. De manière, c'est pas très compliqué comme exercice à faire, vous savez. C'est déjà ce qu'on appelle aussi un ancrage, un auto-ancrage. Je décide de. Après, c'est vous qui mettez ce que vous voulez derrière. Et vous commencez déjà tous les jours, tous les jours, tous les jours à focaliser votre attention, vos pensées sur ce que vous voulez. Et petit à petit, les choses se mettent en place. Il y a des idées qui arrivent. On dit, tiens, je pourrais peut-être faire ça ou ça. Ah ben oui, j'avais pas pensé. Et s'il y a un blocage, eh ben on le débloque. On cherche pourquoi il y a un blocage, d'où il vient, comment je peux faire pour m'en débarrasser. En restant focus sur ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'objectif, l'envie. Tout ça se travaille, vous savez. Les gens qui sont heureux, qui réussissent, ça leur est rarement tombé du ciel comme ça, du jour au lendemain. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est pressé. C'est comme si vous me disiez, je veux soulever 120 kilos d'haltères tout de suite.
Ouais, c'est ça, en plus je fonctionne comme ça.
Eh oui, mais on est très nombreux à fonctionner comme ça, mais ça marche pas comme ça. C'est un pas après l'autre, une chose après l'autre. Et même dans ces changements de vie, quand on commence à mettre en place ces choses, au bout de 15 jours, on se dit, oh, ça marche pas son truc. Non, au bout de 15 jours, ça marche pas. Mais au bout d'un mois, au bout de 2 mois, ça commence à marcher. Les choses commencent à bouger. Et c'est un entraînement mental. Mais le jeu en vaut la chandelle. Une fois encore, moi, je fonctionne par image, vous le savez si vous m'écoutez régulièrement. J'aime beaucoup cette image du GPS. Quand on veut aller quelque part, on est très précis. Alors que dans notre vie, on l'est tellement peu.
C'est ça.
Et on se demande pourquoi on n'arrive pas à destination. Ben voilà pourquoi. C'est déjà difficile d'arriver où on veut quand on sait précisément ce qu'on veut. Alors quand on ne sait pas, il y a un message qui vient d'arriver pour vous. Attendez. De Félag qui dit: commencez par croire en vous, c'est la première des choses. Ensuite, les choses que vous voudrez se feront et ainsi va la vie. Oui, ça
Ouais,
reste.
j'ai vraiment du mal.
À croire en vous, et oui, c'est ça le problème de base, j'ai l'impression.
J'ai vraiment du mal, en fait. C'est pour ça, en fait, que la dernière fois, quand on parlait de relations sentimentales, vous m'aviez dit que, en fait, c'était pas de l'amour, mais c'était plutôt de la dépendance, en fait. C'est comme si je cherchais quelqu'un pour me sortir.
Pour réparer les blessures de
C'est ça,
l'enfance, oui.
c'est ça.
Et oui. Et je vous avais dit aussi que l'autre n'est pas là pour ça.
C'est ça.
Ça veut dire que ces blessures-là, c'est à vous de les réparer. Et on avait travaillé aussi sur votre valeur, justement, en parlant de ce bébé. Quand vous dites, j'ai pas de confiance. Et puis je vous avais dit aussi, il me semble que personne ne viendrait vous taper sur l'épaule un jour pour vous dire, je te donne ta confiance. Vous vous souvenez de ça?
Oui.
C'est à vous de la prendre. Personne jamais dans la vie viendra vous dire, tu es légitime, tu as ta place, tu as le droit d'avoir confiance en toi. Personne. Soit ça a été fait par les parents quand on était petit, et c'est une chance énorme, soit ça n'a pas été fait, et c'est tant pis, mais c'est pas parce que ça n'a pas été fait qu'on va porter ce pauvre manteau de victime toute la vie. À un moment donné, ça suffit. Ok, j'ai pas eu ce que j'aurais voulu avoir, mais je vais le prendre toute seule, je suis une grande fille maintenant. On m'a pas donné confiance en moi, ben je vais la prendre, ma confiance en moi.
Mais vous sauriez comment ça se travaille Enfin, je sais pas, parce que moi, je me rappelle que quand je vous avais dit qu'il y avait une dame qui me suivait pour un bilan employabilité, elle m'avait dit en premier, il faut se regarder dans le miroir. Et bah, se donner du courage devant le miroir. Et puis, si je lui ai dit, mais moi, j'arrive pas à faire ça. Enfin, j'y arrive pas.
Alors,
Elle a
mais
dit, mais faut vous exercer comme ça. Et puis, petit à petit, bah,
bien
vous...
sûr, se faire des compliments, se dire des choses dans le miroir. Hein. Quand vous dites je n'y arrive pas, ça n'est pas mécanique. Vous avez deux bras, une bouche qui fonctionne visiblement. Donc, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire?
Déjà à m'exprimer, à me dire que je vaux quelque chose, que je vais faire quelque chose. Enfin, c'est vrai que au fond de moi, j'aimerais me sortir de tout ça, mais.
Qu'est-ce qui se passe quand vous cherchez à vous dire tu as de la valeur, tu es quelqu'un de bien, en vous parlant?
Ben, j'aimerais bien que ce soit vrai.
Mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous me dites je n'arrive pas à me le dire?
Déjà que je me sens seule, quoi, en fait. Je ne sais pas si ça a rapport à ça, mais.
Bon, on va faire ça autrement. La petite Émilie que vous étiez, mettons vers 10 ans, imaginez qu'elle soit là assise à côté de vous et qu'elle vienne vous voir avec des larmes qui coulent et qu'elle vous dise je vaux vraiment rien, je suis nulle. Qu'est-ce que vous lui diriez?
Mais je dirais que non. Je dirais que non, quoi.
Ah, là, ça vient spontanément.
Mmh.
Et qu'est-ce que vous lui diriez d'autre?
Qu'il faut avoir du courage, que.
Eh oui. Et vous voyez, quand votre coach ou votre psy vous dit de vous parler à vous-même, vous pouvez faire ça un petit peu différemment en allant parler à cette petite fille qui a besoin d'entendre ça. Lui dire, mais t'es une petite fille géniale. T'es belle, t'es intelligente, t'as plein de compétences, t'es une chouette petite fille. T'as eu les épaules aussi larges que tout ce que t'as surmonté. Je suis drôlement fière de toi. C'est déjà un début, ça. Ça, je pense que là, vous pouvez le faire. D'ailleurs, c'est venu spontanément quand je vous ai posé la question, là. Quelle est l'émotion qui remonte là, en ce moment?
Mais que j'ai pas eu de soutien en fait toute ma vie.
L'émotion, qu'est-ce qui fait que les larmes coulent? C'est quoi? C'est la tristesse? C'est la colère? C'est quoi qui remonte?
C'est plus de la tristesse en fait que comme quoi on m'a pas assez encouragée quand j'étais plus jeune.
Je suis bien d'accord avec ça, mais aujourd'hui vous avez deux options. Soit vous continuez votre vie en vous disant « on ne m'a pas encouragé, c'est foutu ». Soit vous dites « ça suffit maintenant. Je ne vais pas laisser ce pouvoir-là aux gens qui m'ont détruite de continuer à le faire. Donc je m'encourage toute seule. » Il y a un autre message qui vient d'arriver pour vous qui vous dit « prenez la petite fille que vous étiez par la main et emmenez-la vers le bonheur que vous méritez. Vous verrez que lorsqu'on sourit à la vie nous sourit en retour. »
Ça, c'est déjà entendu ça. J'avais déjà entendu ça. Enfin, ce proverbe.
Il faudrait vraiment que vous arriviez à arrêter d'attendre ce qui ne viendra pas. Mmh. Je crois qu'il me semble qu'on avait déjà dit ça aussi. Vous n'avez pas eu ce que vous auriez aimé avoir petite, certes, c'est comme ça. Eh bien, vous allez faire autrement. Vous parlez vous-même tout à l'heure de prendre un autre chemin, un raccourci quand il y a un obstacle, une épreuve. Donc vous allez aller rassurer cette petite fille, lui dire à quel point, comme si elle était assise à côté de vous, à quel point vous la trouvez géniale. Et que ceux qui ne lui ont pas dit à l'époque, c'était des imbéciles. Ou des gens incapables pour des tas de raisons personnelles, intimes. Ils n'ont pas su, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas voulu l'aider, la rassurer, lui donner confiance en elle. Mais vous allez le faire. Parce qu'à un moment donné, c'est à vous de vous prendre par la main. Et puis, essayez. Est-ce que vous avez une amie, quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup?
Non, pas du tout.
Vous n'avez pas d'amie?
Non.
Pourquoi?
En fait, quand je suis arrivée au collège, j'avais une amie, vraiment une très 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 bonne amie. Et puis, en fait, il y avait une boum et elle a été invitée et sortie avec un de mes ex, quoi, en fait. Et puis, c'est vrai que de là, je me suis dit, en fait, on peut se faire trahir par n'importe qui, même à celle qu'on avait hyper confiance. Et depuis,
Mais si c'était votre ex, où est le problème?
En fait, c'est que j'en étais encore amoureuse, en fait. Donc, c'est pour ça. Et puis, ça m'a fait mal, quoi, en fait.
Ce que je voulais vous dire par là, c'est que quand on a des amis, on est 10 fois plus tolérant avec eux et bienveillant avec eux qu'avec soi-même. Vous auriez une amie qui vous dirait j'ai pas confiance en moi, je suis nulle, je suis ceci. Vous seriez la première à lui dire le contraire. Et c'est ça que votre thérapeute essaie de vous faire comprendre. Parlez-vous à vous avec bienveillance. À chaque fois que vous avez une pensée négative, remplacez-la par une pensée positive.
D'accord.
Et oui, mais c'est un exercice qui fonctionne. Il y a Blandine qui vous dit « Courage, Émilie, vous allez faire un pas à la fois et ça va fonctionner. »
Merci. «
La vie, dit-elle, nous donne la force qui est à la hauteur de nos épreuves. » Oui, quelquefois j'ai tendance à penser qu'on a les épreuves qu'on est capable de surmonter. Et là, vous êtes à un tournant.
Oui, c'est ce que je sens aussi.
Oui, j'ai l'impression, oui.
Parce que comme je vous avais dit mardi dernier, que j'ai vraiment envie de changer, quoi, en fait. Et c'est vrai que je prends un peu plus de temps pour moi. Enfin, je me fais des soins esthétiques, je sors, je vais me promener.
Très bien.
J'essaye d'égayer mes sorties, en fait. Mm-hmm. Même si je sors toute seule, c'est pas grave. Je me dis, c'est pas grave.
Et vous avez aussi le droit de vous faire plaisir, de vous faire un cadeau et de vous acheter des choses.
C'est ça. Des fois, je m'achète des trucs et tout. Mm-hmm. Je dis, tiens, pourquoi pas. Enfin, c'est vrai que j'essaye, par contre. Ça, c'est vrai que j'ai envie d'aller dans cet élan-là. Et je pense qu'après, ça va m'aider aussi à ne plus avoir peur et ne plus attendre, surtout. Ne plus attendre après quelqu'un, ne plus avoir peur de mettre en action, quoi, en fait.
Eh bien, voilà. Vous avez tout compris, Émilie. C'est exactement ça. Et les gens confondent, et souvent les gens, j'ai encore eu cette conversation ce matin avec quelqu'un qui me disait « Oui, mais m'aimer, c'est prétentieux, c'est arrogant. » Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est presque de l'arrogance. Non, l'arrogance, c'est quand on pousse les autres vers le bas. La confiance, c'est quand on se tire nous-mêmes vers le haut. Et c'est pas pour rien que l'amour pour soi, ça se dit amour propre. C'est l'amour le plus important. C'est notre socle à nous. Et quand on s'aime suffisamment soi-même, alors on est capable d'aimer les autres aussi, correctement.
Exactement.
J'ai discuté aussi avec quelqu'un qui me disait « De toute façon, je suis vieille, je suis moche, j'ai pas d'intérêt. Et j'arrive pas à rencontrer un homme qui m'aime. » Bah oui, c'est QFD. Comment voulez-vous qu'un autre vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même? Si vous vous détestez, vous ne rencontrerez pas quelqu'un qui vous aimera. Il y a Mamie Tam Tam qui envoie un message aussi qui dit que cette jeune femme fasse la liste de toutes les choses qu'elle a réalisées avec succès. Ça m'a beaucoup aidé. Courage, vous dit-elle. C'est vrai que lister ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a réussi, c'est un bon début aussi pour en prendre conscience.
Ce que j'ai fait de bien, c'est vrai que, on va dire que j'ai eu mon permis du premier coup. Ça, c'est vrai que j'étais fière un peu.
Mais il y a de quoi, oui.
Mais ça fait un moment. Donc, ce que j'étais fière, c'est de pouvoir aider les autres, quoi, en fait. C'est vrai que je suis assez polie, je suis assez respectueuse. Mm-hmm. Ça, j'aime bien ce côté-là de moi, en tout cas.
Oui.
Quand je suis bien, enfin, quand je vous ai aidé la dernière fois, c'est vrai que je suis quand même un peu rigolote.
Oui, on avait bien rigolé à la fin de la conversation, finalement.
Oui, oui, oui. J'aime bien la joie, la bonne humeur, quoi, en fait, en gros. C'est vrai que j'aime pas voir les gens qui sont tristes ou qui ont besoin d'aide et que personne n'y prête attention. Ça, c'est vrai que je suis un peu comme ça. Je suis un peu un Saint-Bernard, on va dire.
Mmh. Ce qui me paraît un peu logique, vu votre enfance, d'ailleurs.
Oui.
C'est ce côté Mère Teresa, un petit peu. Mais ça, ce sont des belles qualités. Hein.
Moi, en tout cas, c'est vrai que moi, je ne changerais pas ça, par contre.
Ah ben voilà.
Ça ne changerait pas ça. Et c'est vrai que moi, j'ai des difficultés. C'est vrai, en ce moment, c'est vrai que... Enfin, je vais paraître... Je parlais d'une autre génération, mais bon, c'est vrai que moi, j'arrive pas quand. Quand il n'y a pas cet attachement, enfin, je sais pas comment dire ça, mais je trouve qu'on délaisse, qu'on se délaisse, quoi, vite, quoi. Enfin, on est submergé par notre vie, on est submergé par ceci, par cela, on n'a pas le temps de voir.
Ah bah tout va trop vite, ça c'est certain.
Ben, c'est ça. Enfin, ça, c'est vrai que c'est un peu.
La génération, enfin tout ce qu'a amené Internet et les
C'est
écrans,
ça.
ça, c'est formidable dans plein de domaines, mais ça nous a bouffé beaucoup de choses, hein.
Oui.
Mais oui. Mais je vois pas comment on pourrait faire machine arrière.
Ah non. Mais bon, faut se mettre.
Essayer de prendre le bon de tout ce qui était nouvelle technologie, mais de
C'est
garder
ça.
quand même
C'est
des
ça.
rapports humains, du temps.
Mmh.
Du temps pour soi, du temps pour l'autre.
Oui, parce que je me rappelle que l'histoire de Christophe, c'était à peu près la même chose vendredi. Et c'était à peu. Enfin, je me sentais quand il répondait, je me disais, mais j'ai répondu pareil, j'ai répondu pareil. Mais c'est pas trop la même histoire, mais c'est à peu près les mêmes.
Schéma.
Les mêmes réponses, quoi, en fait. Ouais, les mêmes schémas, voilà, c'est ça.
Oui.
En tout cas, je lui passe un grand bonjour.
S'il est à l'écoute, ça lui fera plaisir.
Voilà. Puis voilà.
Bon, je pense que vous aviez un petit coup au moral ce soir. J'ai l'impression que ça remonte un petit peu.
Oui, c'est vrai que bah, c'est que en fait, bah, je vous avais dit que celui-là qui m'avait envoyé un texto en me disant que j'avais plus besoin d'en connaître davantage sur moi. Bon, bah, il m'a rappelé et puis c'est vrai que ça m'a un peu perturbée en fait. Donc c'est vrai que on m'a envoyé texto, l'air de dire bah, bonjour, ça va, je venais prendre de tes nouvelles. Bon, bah. Ok.
Vous avez répondu?
Non, pas du tout.
Ah.
J'ai trouvé ça, franchement, je trouvais ça vraiment
Malvenu.
malvenu, hautain, enfin, arrogant, enfin, j'ai vraiment pas aimé.
Ah bah très bien.
Il m'a appelé plusieurs fois, mais j'ai pas répondu. Donc, je me suis dit non, je vais pas retourner en arrière. Là, je suis dans mon élan.
Et je vais vous rappeler
J'essaie.
cette petite phrase aussi qui est toute simple. En disant non à l'autre, vous dites oui à vous.
C'est ça.
Et là, il est temps de vous dire oui à vous d'abord.
C'est ça. Je pensais d'abord à moi et puis éviter tous les petits cailloux de son genre à lui, quoi. Enfin, les gros cailloux, pardon. Voilà.
Bon, moi, je vous sens sur la bonne voie pour ce virage-là, Émilie. Ça
Ben,
va
j'espère.
aller de mieux en mieux, vous allez voir.
Ben, en tout cas, c'est ce que je veux. J'espère y arriver. Puis j'ai envie d'y arriver, j'ai besoin d'y arriver.
Très bien, eh bien, ça me paraît un bon début dans les mots. Maintenant, il faut que les actes suivent.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça.
Un pas après l'autre, toujours pareil.
C'est ça. Ok.
Et puis revenez dans quelques temps me raconter comment ça a bien évolué.
Ok, ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Sabine. Ça m'a fait vraiment du bien. Puis il me fallait peut-être un coup, quoi.
J'espère que j'ai pas tapé trop fort. Je m'en voudrais.
Non, non, non. C'est un petit coup qui donne le boost, voilà.
Bon,
Un petit booster, quoi.
je vous requitte avec un sourire comme la dernière fois, c'est parfait.
Ok, bah je vous remercie beaucoup.
Je vous embrasse, Émilie.
Merci.
La libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin accompagne vos nuits.
Et j'ai juste le temps d'attraper Jean-Claude au vol avant les infos. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir Sabine, bonsoir aux auditeurs.
Alors je pense qu'on vous connaît, Jean-Claude, hein.
Oh, il me semble depuis le temps qu'on
Bon.
en parle.
Alors dites-moi juste en quelques phrases ce dont vous voulez parler ce soir et puis on marquera une pause le temps des informations et nous nous retrouvons bien évidemment, si vous êtes sage, après les infos.
Si je suis, mais je suis très sage.
Bon.
En fait, ce sont les suites d'un accident survenu au travail il y a maintenant 11 ans. Cet accident n'a pas été déclaré à l'assurance maladie à l'époque. Or, il s'agit d'un accident corporel avec 80% d'invalidité à la clé. Un trauma crânien, une déficience visuelle et divers embêtements qui vont avec.
Alors,
Voilà.
je me souviens que vous aviez eu beaucoup de douleurs physiques et que la dernière fois, vous m'aviez
Oui.
dit que ça allait mieux, que vous aviez quand même réussi à trouver enfin un apaisement de ce côté-là.
Oui, de ce côté-là, on y est arrivé, mais c'est purement médical, hein, il n'y a pas de tour de passe-passe. Donc, il en reste un peu.
Mais c'est-à-dire que vous avez quand même trouvé le bon traitement.
Oui, tout à fait, oui.
D'accord.
En fait, derrière tout ça, il y a eu, lors de cet accident, un traumatisme crânien que le corps médical n'a pas voulu reconnaître, puisque l'entreprise en question est en cause et ça la mettait vraiment très en cause. Donc, on a dit en quelque sorte, dans les hôpitaux, bah, il n'y a rien eu, voilà. Et ces douleurs étaient liées à ça.
Vous dites très en cause parce qu'il y a eu un manquement?
Beaucoup de manquements. À l'origine, l'accident s'est produit à bord d'un véhicule de service, un utilitaire, laissé sur le parking de l'entreprise dans un état catastrophique de non-entretien. C'était pratiquement un cercueil roulant. Et c'est avec ça que j'ai eu l'accident en question.
D'accord. Mais ça, vous nous l'avez déjà raconté. Jean-Claude,
Voilà.
si vous appelez ce soir, c'est pour me dire quoi, en
Les
fait?
nouvelles, en fait,
Ah, des nouvelles.
au niveau médical, l'évolution que ça prend à l'heure actuelle.
D'accord.
Voilà.
Bon, alors on va faire comme on a dit. On va
Oui.
prendre le temps de laisser Sophie Tussaud nous informer.
Oui.
Hein, et puis dans quelques instants, on reprendra cette conversation et vous me direz effectivement comment ça évolue. Mais de ce que j'entends, j'ai pas l'impression que ce soit des bonnes nouvelles.
Non, non, pas vraiment, non.
Bon, on marque une pause, Jean-Claude, et je vous récupère dans quelques instants. Vous me raconterez tout ça, d'accord? Merci d'être avec nous ce soir sur cette libre antenne d'Europe 1. Nous sommes encore ensemble et en direct jusqu'à minuit. Ça veut dire qu'il nous reste une heure à partager. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler. Vous faites le 3921. Fanny et Kelvin sont là, ils attendent vos appels et vous guideront ensuite jusqu'à moi dans ce beau studio tout bleu aux lumières tamisées. 3921, donc le numéro de téléphone. Et bien sûr, pour continuer à réagir par SMS, vous savez que vous pouvez le faire à tout moment. Vous faites le 73921. Suivi du mot nuit et de votre message. Je vous rappelle aussi notre adresse mail, c'est libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Et ma page Facebook, bien sûr, sur laquelle nous pouvons nous retrouver à tout moment. Sabine Marin, officielle. Voilà, maintenant, vous savez vraiment tout.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Jean-Claude.
Oui.
Alors, racontez-moi ce qui a évolué et ce qui a mal évolué, visiblement.
Alors, ces douleurs étaient en fait causées en conséquence de ce que l'on appelle un syndrome ou la maladie d'Addison. Et dans mon cas, c'est directement causé par le traumatisme crânien en question.
Je ne connais pas du tout ça.
C'est-à-dire une insuffisance majeure en cortisol, en permanence, avec une toute petite pointe le matin vers les 8 heures, mais très insuffisante pour assurer toute la journée. Et à l'opposé de ça, un taux d'adrénaline vraiment très élevé, ce qui causait les douleurs. Et
D'accord.
maintenant que c'est géré, c'est quasiment circoncis de ce côté-là, circonscrit de ce côté-là, il n'y a plus de problème.
On peut augmenter l'un et diminuer l'autre alors.
Diminuer l'autre, en fait, on peut y arriver à gérer l'adrénaline, à la faire baisser, mais augmenter le cortisol, c'est très compliqué. On ne peut pas faire beaucoup de miracles. Hein. On prend de la cortisone de substitution, c'est-à-dire de l'hydrocortisone, à une dose d'environ 30 mg jour, et puis avec ça, il faut se débrouiller pour faire la journée. Et parfois, ça passe pas du tout. Et il en résulte des fatigues vraiment importantes. Ce qui fait qu'on ne sort pas de chez soi pratiquement. Et voilà. Et bon, par contre, la douleur, là, c'est réglé. Parce qu'à un moment, ça atteignait des sommets, mais c'était vraiment atroce. Là, on pouvait, comment dirais-je, comparer avec ce que disait Christophe Taureau, là, le journaliste
Oui.
de l'Express, il me semble. C'était vraiment du même genre.
Par contre,
Donc,
j'ai un trou de mémoire sur le nom de sa maladie à lui, c'était des douleurs névralgiques, mais le nom
Voilà,
de...
c'est la même chose, hein, la névralgie de Arnold ou
Voilà.
névralgie du trijumeau. En
Oui.
fait, c'est l'algie vasculaire de la face.
Voilà, c'est ça le terme.
Dans son cas,
Il en a fait un livre.
c'était lié en fait à une migraine très très forte.
Et la douleur qui rend
Voilà.
fou, paraît-il.
Ah oui, je peux vous confirmer, c'est de cet ordre-là. Moi, en ce qui me concernait, c'était quasiment binaire, c'est-à-dire par moment, je vais pas mal, ça va très bien, profitons-en. Et puis, par d'autres moments, c'était douleur maximum sans progressivité. Voilà. Donc ça, c'est résolu. Enfin, il aura fallu 9 ans pour y arriver. Alors que le diagnostic, en fin de compte, n'était pas si compliqué que ça.
Mais ils sont passés à côté.
Ah oui, largement. Oui. C'est à se demander s'ils l'ont fait exprès. Parce que la maladie d'Addison, c'est assez simple d'Addison, pardon, c'est assez simple à diagnostiquer en fin de compte.
Et alors, sur le plan juridique, vous en êtes où?
Alors, il y a deux poursuites qui ont été initiées. L'une est toujours en cours et va aboutir à quelque chose. L'autre a été classée parce que ça visait beaucoup trop de monde peut-être et des gens bien placés sans doute. Donc il fallait pas embêter. Mais c'est pas pour autant que ça ne se sépare.
D'accord.
Voilà. Concernant donc ce qui s'est passé au niveau médical, l'accident que j'ai eu en fait a été couvert par l'un des amis du chef d'atelier où je travaillais. Celui-ci était médecin des urgences.
C'est ce que j'allais vous dire. J'ai l'impression entre les lignes en vous écoutant que ce monsieur a été protégé de plusieurs manières.
Oui, tout à fait.
Oui.
Tout à fait.
Sinon,
oui,
il serait pratiquement en prison aujourd'hui sur un cas comme ça.
Oh oui, oui, oui. Et puis c'est surtout lié à la région, comme vous avez parlé tout à l'heure d'une réalité régionale à l'ouverture de l'émission.
D'une réalité régionale.
Oui, d'une réalité que l'on voit au niveau de chez soi et qui n'est pas la même que
celle
des autres.
D'une carte du monde, que chacun a sa carte du monde. Oui.
Voilà, bah là c'est tout à fait régional. C'est pas dit qu'à Paris ça serait passé la même chose.
Oui, c'était pas tout à fait ça ce que je voulais dire, mais c'est pas grave.
Moi, enfin, je l'ai interprété comme ça. Et donc cette personne, pour le moment, n'est pas inquiétée. Enfin, quoique ça se sait vraiment beaucoup.
Ce qui est déjà pas mal, parce que ça laisse des traces quand même. Hein.
Bah, ça se sait tellement même que cette personne a en quelque sorte été réélue, pas du tout dans un fauteuil, mais plutôt dans un siège éjectable. Ah. C'est-à-dire que l'opposition s'est arrangée pour s'en débarrasser hors du département.
Bon, bah déjà... Il commence à récolter ce qu'il a semé.
Oui, voilà, en quelque sorte.
Ouais.
Au niveau des séquelles, il n'y a pas que ça. Au niveau de la douleur, ça a été traité. Le cortisol bas a d'autres effets néfastes, à commencer par des risques infectieux très importants. Ils sont connus également en cas d'un accident routier avec trauma crânien. Et il se trouve que depuis 11 ans, j'ai quand même fait 6 passages en hôpital pour septicémie.
Ah oui.
Voilà, maintenant on sait pourquoi.
Oui, oui.
Il n'y a plus trop de questions à se poser, vu qu'à chaque fois c'était la même chose. Donc il n'y a rien de nouveau de ce côté-là, sauf un certificat médical qui est tombé fin juin, qui reconnaît donc cette maladie d'Addison consécutive à un trauma crânien à la date du 24 juin dernier. Seulement, comme ça n'est pas d'aujourd'hui, ça reconnaît toute l'antériorité en même temps.
D'accord. Et ça va vous permettre quoi, ça?
D'avancer au niveau juridique, puisque maintenant, c'est écrit. Avant, les médecins ne voulaient pas écrire du tout, parce que forcément, ça mettait en cause un peu plus haut et un peu avant eux. Donc, il n'y avait pas moyen d'avoir une certification de quoi que ce soit. Et maintenant, c'est fait.
Alors, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui dans ce combat-là?
Juste l'indemnisation du handicap, juste ça. Parce que ça ne s'arrête pas qu'à ça. Je suis devenu déficient visuel suite à cet accident, avec 0/10 œil gauche actuellement en vue corrigée ou non, 1/10 en vue non corrigée à droite et un peu plus en vue corrigée. C'est pas grand-chose. Paresthésie, bras et jambes droites.
Il y a beaucoup de choses, effectivement.
Acouphène à droite. Voilà, donc ça fait vraiment beaucoup de choses. Plus de 80% d'IPP à l'âge de 52 ans.
Et cette indemnité, elle pourrait tomber quand, maintenant? Au vu des avancées de tout ça.
Encore. Là, dans l'état actuel des choses, l'employeur qui fait semblant de ne pas être au courant du dossier, etc., continue de me payer en équivalent salaire, c'est-à-dire en maintien de salaire.
Oui.
Alors qu'il ne reconnaît pas l'accident, qu'il n'a d'ailleurs pas déclaré il y a 11 ans. Sauf qu'en termes de droit, avoir payé comme ça pendant 10 ans, c'est pas du tout un salaire, c'est une rente d'invalidité.
Oui, mais c'est pas dans les clous, ça, c'est pas légal, cette façon de faire.
Si.
Ah bon?
Si, ça, personne n'est empêché de payer une rente.
Ah bon?
Par contre, le pendant, c'est la reconnaissance implicite. de l'accident et de la responsabilité de l'accident et de cet handicap.
Ben oui, s'ils vous payent
si,
alors
ben,
que vous
ils
ne
le reconnaissent
plus, ben
forcément.
Oui, il faut qu'ils
voilà.
Voilà, il faut qu'ils justifient ça.
Voilà. Donc là, de toute façon, avec les certifications que j'ai là depuis le mois de juin, donc c'est fondé. Et maintenant, on peut leur réclamer beaucoup plus.
Bon.
Voilà.
Ça, c'est plutôt une bonne chose.
Donc, voilà. Donc ça, c'est pour la partie accidentologie. À l'époque, cet accident avait suivi 6 mois après que je sois opéré d'un cancer assez grave, qui est un cancer du rein. Ce cancer du rein, on a toujours cherché où en était la cause, parce qu'en fait, il n'y en avait pas vraiment. Et bon, on en a trouvé une qui vraiment se... enfin, c'est évident, quoi. C'est-à-dire que dans cette entreprise, il y avait une exposition à des matières dangereuses qui étaient stockées là, sans rangement particulier ni protection. Et ça ne s'est pas produit uniquement que dans mon département, ça s'est produit dans d'autres départements en France. Mmh. Et cette entreprise-là est actuellement poursuivie pour ça.
Ah oui, donc ça va très loin, cette histoire.
Voilà, je vous avais dit à l'époque, il y a 2 affaires dans l'une, voilà la seconde affaire.
Ah oui, d'accord.
Et donc, cette histoire-là a également été citée par Europe 1 à l'époque. Là, à l'heure actuelle, les poursuites sont en cours.
Donc ça veut dire que vous n'êtes pas le seul à avoir déclaré un cancer en ayant travaillé pour cette boîte?
Non. Non,
dans
non.
Des conditions similaires?
Absolument. Mmh. Il s'est trouvé quand même assez bizarre qu'il y a machin, là, moi-même, qui fasse le cancer du rein assez grave, à distance des autres qui en ont fait également, dans les mêmes conditions de travail. Donc, ça se recoupe tout ça.
Mmh.
Et en fait, la matière en question qui était stockée, c'était des petites quantités, mais multipliées par 1000, 2000, 3000. Donc ça commence à faire beaucoup. C'était du radium.
D'accord. Je ne suis pas sûre qu'il dorme sur ses 2 oreilles, hein, ce patron.
Non, 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 il ne dorme pas sur ses 2 oreilles. Suite au premier passage chez Olivier Delacroix, le centre financier là, dans ma région a fermé. Carrément. En fait, comme il s'agit d'un accident lié à un caviardage auprès de l'assurance maladie, que cette boîte-là vend de l'assurance, ça l'affichait un peu mal. Voilà. Au niveau médical, en ce qui me concerne, le pronostic n'est pas très bon parce qu'en fait, ça n'évolue pas au fil des années. Depuis 10 ans, au contraire, ça se complique beaucoup. Et là, en fait, c'est une aggravation qui se passe en ce moment.
Bah, c'est compliqué d'aller bien dans un contexte pareil. C'est pour ça que je vous disais, qu'est-ce que vous attendez et quand est-ce que ça peut arriver pour que vous puissiez un jour passer à autre chose?
Passer à autre chose, ça me paraît un peu compliqué. Déjà au niveau reconnaissance accidentologie, il faut arriver au bout.
Mmh.
Et faire en sorte qu'ils arrêtent d'esquiver en face. Même s'ils continuent de couper leurs branches pourries, il en restera toujours. Et de mon côté, que le protocole et les procédures prévues pour ce genre de handicap soient toutes mises en œuvre.
Oui, j'ai bien compris, mais quand je vous dis passer à autre chose, ce sera une question de survie pour vous à un moment donné.
Ah oui, oui,
que votre vie ne soit pas concentrée uniquement là-dessus pendant 20 ans, quoi. C'est pas possible.
Ah ben, on en est déjà 11 ans, mais
c'est pour ça
bien
que je vous
parti
dis ça.
Pour 20 ans, ça se trouve. Hein.
Ben, j'espère pas pour vous.
Voilà, et ce qu'il y a, c'est ça se fera quand tout ce qu'il faudra sera mis en place comme il faut.
Oui.
Au niveau de la gestion du handicap, du quotidien, etc. Un exemple très particulier, suite au dernier passage. Alors, deux sbires du maire actuel sont venus me voir chez moi pour me promettre je ne sais pas quoi, sans doute des promesses électorales.
Mmh.
Du genre à ce que je ne vous parle pas ou ne vous recontacte pas pendant la campagne électorale pour que ça ne leur porte pas ombre. Et puis depuis, silence radio.
C'est le cas de le dire. Oui.
Voilà. Voilà, mais c'est tout à fait cette majorité en place, là, c'est tout à fait leur façon de faire, qui ne change pas de la précédente, hein, je précise. C'est la même chose. Puisqu'ils se couvrent les uns les autres, se font la courte échelle les uns aux autres. Enfin bon, ils ne sont pas plus crédibles ni recevables les uns que les autres.
Mais dites-moi, est-ce que vous voyez une thérapeute pour évacuer tout ça, pour en parler?
Alors, c'est un peu particulier, la région où je suis, parce que ces gens-là, du côté psy, ne reçoivent que les malades, les vrais malades psy. C'est-à-dire bipolaire, schizo, et choses comme ça.
Depuis quand un thérapeute choisit ses patients?
Eh bien, c'est eux qui choisissent, c'est tout, parce qu'ils sont à l'hôpital, et l'hôpital est cadré par des élus locaux, et voilà.
Oula, bon, là, je vais pas rentrer là-dedans, mais ça me surprend, parce que je me dis que si vous appelez aussi souvent la Libre Antenne pour en parler, c'est que vous avez besoin que ça soit évacué, et que ça vous ferait du bien d'en parler avec quelqu'un dont c'est le métier.
Vous avez besoin que ça sorte, mais ce genre de personnes dans la région, c'est comme les bons médecins, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout.
Bon, là, j'ai aucun moyen de vérifier ce que vous me dites, c'est compliqué, mais c'est...
Là, cette région, c'est devenu ce qu'on appelle un vrai désert médical. Hein. Mmh. Entre ceux qui sont partis à la retraite et ceux qui arrivent en remplacement, qui n'ont pas du tout le niveau,
alors,
en fait, voilà.
Il y a aussi des psys par téléphone qui fonctionnent très bien.
Ah, peut-être, oui.
Il y a des gens qui sont très bien, qui font des séances à distance, comme ça.
Voilà, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire avec moi, comme le MDR, par exemple. Vu que la vue est très déficiente, on ne peut pas.
Ce que j'essaie, Jean-Claude, c'est de vous amener à penser, non pas sur tout ce que vous avez perdu, mais tout ce que vous avez encore, avec comment vous pourriez avancer avec tout ça. Voyez, ne me faites pas la liste de ce que vous ne pouvez pas faire, faites-moi la liste de ce que vous pourriez faire.
Pour le moment, là, ce que je peux faire, c'est au jour le jour, continuer d'avancer, c'est déjà pas mal.
Oui.
Prévoir des choses, non, je ne peux pas. Étant donné que l'état général de santé varie d'un jour à l'autre et d'une semaine à l'autre, on ne peut rien prévoir du tout.
Non, mais sans prévoir, vous voyez, quand je vous dis trouver un thérapeute, même par téléphone, je suis persuadée que ça vous ferait du bien. D'évacuer, de parler tout ça encore et encore.
Oui, peut-être. Mais j'en ai vu en local. Seulement, comment dirais-je, ils sont dans l'esquive de ce problème-là parce qu'ils savent très bien de quoi il s'agit.
Alors, j'ai bien compris. C'est pour ça que je vous proposais de prendre quelqu'un qui est loin et qui est par téléphone, qui fait des séances par téléphone.
Oui, peut-être. Peut-être. Mais qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de particulier? Là, quand je vous contacte, en fait, c'est pour vous informer et d'autre part que les auditeurs soient au courant de ce qui peut se passer dans certaines conditions. Comme quoi, il peut y avoir différents cas de figure pour un tel et en fait, il n'y a pas qu'une seule solution.
Oui.
Voilà.
Et je sais bien, malheureusement, cette triste histoire, on la connaît depuis que vous nous la racontez.
Oui.
Mais j'aimerais vraiment que vous arriviez à avoir gain de cause maintenant rapidement sur le plan moral et surtout sur le plan financier.
Voilà.
Et que vous puissiez avancer.
Là, j'ai prévu de sortir un bouquin.
Oui, ben voilà une façon aussi de sortir, de ne pas garder à l'intérieur. Très bien.
Voilà, je vous l'ai dit la dernière fois.
J'avais oublié ça.
Là, il est chez l'éditeur. Le bon à tirer est signé. Le bon à tirer est signé. Là, je suis dans l'attente parce qu'on va arriver dans une période électorale assez mouvementée, je pense. Et il vaut mieux que j'attende d'après.
Peut-être, oui.
Voilà, parce que franchement, quand ça sortira, ça fera énormément de bruit, à moins que ça ne sorte pas du tout. Et voilà, quoi, comme il y a pas mal de gens, pas forcément haut placés, mais avec des relations qui sont concernées. Donc, pour le moment, j'attends un peu. Mais le bouquin est prêt, hein, tout à fait. Il est surtout technique, détaillé et complet. Par rapport à tout ce que je vous ai dit, il y en a beaucoup plus. Parce que sur 10 ans, il s'en est passé quand même.
D'accord, mais c'est une très bonne chose, ça.
Voilà. Donc, c'est prêt de ce côté-là.
Vous me l'enverrez quand il sera sorti?
Absolument, oui. Voilà. Mmh.
C'est gentil, Jean-Claude. Prenez soin de vous, vraiment.
Merci.
Et je vous souhaite que les choses avancent pour que vous puissiez en sortir une bonne fois pour toutes de tout ça. Hein.
Merci bien.
La tête haute, en tout cas.
J'ai toujours la tête haute. C'est une constante. Malgré tout, les gens que j'ai vus plus ou moins corrompus, je reste droit et intègre, complètement incorruptible. Ça, c'est une constante en ce qui me concerne.
Eh bien, bravo pour ça.
Merci.
À bientôt, Jean-Claude.
Bonsoir.
La Libre Antenne d'Europe 1. Sabine Marin accompagne vos nuits.
Et c'est Jeanne que j'ai le plaisir d'accueillir maintenant sur notre Libre Antenne. Bonsoir à vous, Jeanne.
Bonsoir, Sabine. Bah écoutez, je suis ravie de vous avoir parce que c'est vrai que vous accompagnez beaucoup, beaucoup mes nuits, hein, mes débuts de nuit.
J'espère que je les accompagne en douceur.
Ah oui, et très agréablement.
C'est gentil.
Je coupe la télé, je coupe tout pour vous, je me mets dans le noir et j'écoute.
Ah, mais bah, c'est gentil.
Ah, oui. Oui, oui, bah... oui, c'est vrai, ça devient. C'est mon moment presque préféré de la journée, sans exagérer.
Alors, je suis d'autant plus ravie de vous accueillir ce soir, Jeanne.
Je vous remercie. Alors, bah, voilà, j'appelle. Bon, j'ai entendu le témoignage de la jeune femme, que je pense, elle avait une voix très jeune en tout cas, tout à l'heure.
Émilie.
Oui,
voilà. Elle a une quarantaine d'années, oui.
Ah oui.
Mais je vous l'accorde, elle a une voix de jeune fille, pratiquement.
Oui. Oui, 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 tout à fait. Et bon, elle m'a beaucoup touchée parce que ce qu'elle est en train de vivre, je l'ai vécu par le passé. Je croyais m'en être sortie, puis voilà que ça me retombe dessus. Mais c'est pas ça que je voulais lui dire. Ce que je voulais lui dire à elle, c'est qu'il fallait qu'elle y arrive, parce qu'elle va la prendre, la petite fille, par la main. Puis elle va lui faire beaucoup de choses.
Hein. Mmh, bien sûr.
Elle a beaucoup de... Je pense qu'elle a beaucoup d'atouts, cette jeune femme.
Il faut juste qu'elle comprenne que ce ne sont pas les autres qui vont lui amener la solution.
Exactement. Et c'est le plus dur à comprendre et à admettre.
À mettre en compte, bien sûr. Ce sont des mots au départ, après il faut transformer ça en action.
Ah oui, oui, oui. Et moi je l'ai mis en action. J'ai remercié Dieu. Vous voyez, il y a un an, je remerciais Dieu d'avoir le cancer. Bon, il faut... Bon, c'est peut-être un peu particulier de dire... Ah, mais bon, j'ai eu une vie assez hachée, assez mouvementée, avec pas mal de déboires. Et bon, j'en suis arrivée à ça. Il y a un an, tout pile, hein, c'était en juillet dernier.
Cancer de quoi ?
Cancer du sein.
Oui.
Cancer du sein. Donc ça ne m'affole pas parce que malheureusement, ma maman en est décédée et c'était quelque chose que je connaissais très bien. Et je ne sais pas pourquoi, ça ne m'affole pas. Voilà, je me dis, ce n'est pas grave, tu vas t'en sortir, ma vieille.
Très bien.
Et
j'aime bien quand on se parle comme ça, moi.
Oui, mais ça n'a pas duré, c'est ça l'ennui. Alors, j'ai démarré en trombe. C'est vrai que j'étais pleine d'assurance et même pleine de vie. Et j'étais presque réconfortée parce que toute ma vie, j'ai traîné avec des petites sacrées dépressions, puisque ça a été jusqu'à l'extrême. Ça a failli basculer dans l'extrême une fois. Mais bon, à des choses comme ça. Et là, je me disais, enfin, une maladie dont je peux parler à tout le monde, dont je ne dois pas avoir honte,
et qui c'est le cancer. Qui se voit, oui. Oui.
Voilà. Alors, presque toute fière de mon cancer. Non, mais c'est un peu comme ça que je le ressentais. Et puis, j'avais promis à maman, je vais me battre. Toi, tu es morte, mais moi, non. Et je vais te guérir. Et tu pourras reposer en paix. Bon, ça,
est-ce qu'une partie de vous, Jeannine, ne savait pas déjà qu'il arriverait un jour, ce cancer ?
Peut-être. Peut-être que je l'attendais, finalement.
Oui, c'est un peu ce que je me dis en vous écoutant, là.
Oui, parce que en même temps, je vais vous dire que toute ma vie depuis que maman est morte, je traîne en moi une espèce de... Je me sens coupable, affreusement coupable, de plein de choses. Et entre autres de la mort de maman. Mais bon, ça, c'était le début d'une suite assez perturbante de... Mon frère qui est parti à l'autre bout du monde, que je n'ai pas vu depuis 40 ans. Ma petite sœur qui a fait la même chose, que je n'ai jamais revue et que je ne reverrai jamais. Bon, maintenant, je le sais. J'ai Ami maintenant. Et j'ai vécu... Bon, mon père qui est parti aussi. Alors, lui, il m'a dit, bon, de toute façon, je ne te connais plus, alors que j'habitais à 3 km de chez lui. Tu n'es plus ma fille, je vous déshérite, et il l'a fait. Enfin, toutes des choses comme ça qui m'ont cassé. J'avais l'impression qu'on me tapait sur la tête petit à petit. Puis à un moment donné, bah, évidemment, j'ai explosé. C'est la bêtise qu'il ne fallait pas faire. Et je me suis cassé pas mal de choses. Et j'en suis restée, on va dire, abîmée.
Mais j'ai pas bien compris, pourquoi seriez-vous responsable de la mort de votre maman ?
Oh, c'est tout un ensemble. J'étais... Bon, l'aîné, c'était mon frère, mais mon frère, il n'était pas question qu'il reste à la maison. Moi, j'étais la deuxième, et papa avait décidé pour, je ne sais pas pourquoi, bon, d'abord, j'étais sa petite princesse, sa chose, comme il disait. J'étais sa chose. J'étais à lui. Il me disait des choses comme, par exemple, toi, tu me quitteras jamais, tu es à moi. Toi, tu feras toujours tout ce que je te dirai. Toi, tu laisseras jamais tomber ton père, quoi qu'il arrive. Tu es ma béquille, ma...
Comment il mon bâton, mon bâton de vieillesse.
Bâton de vieillesse. Voilà, des choses comme ça. Bon.
T'es un beau manipulateur.
Terrible. Mon père, plutôt. Plus que manipulateur, mais ça, je l'ai compris aussi tout doucement. Alors, ça a été un long apprentissage et assez douloureux parce que mon frère m'a tourné le dos. Mais il y avait des injustices entre mon frère, qui était le fils aîné, et moi. Mais par exemple, je vais vous citer le plus gros. Mon frère, quand il avait 20, 21 ans, à l'époque, on était majeur à 21 ans, il s'était acheté une petite voiture d'occasion à 500 euros, mais c'était même beaucoup moins que ça à l'époque. Moi, à mes 18 ans, parce que la majorité était passée à 18 ans entre les deux, j'ai eu une voiture neuve dans le jardin, offerte par mon père. Vous voyez la différence. Et pas n'importe laquelle en plus. Hein. Oui. Un beau petit cabriolet. Alors vous voyez, Jean...
Ça n'a pas dû arranger vos relations avec votre frère, ça.
Pas du tout.
Mais, oui.
Mais moi, j'étais naïf entre les deux. Je ne comprenais pas. Et je prêtais ma voiture à mon frère. Et quand mon père rentrait, qu'il voyait que ma voiture n'était pas là avec moi, j'étais là, il me disait, ben, qu'est-ce que tu as fait de ta voiture? Je sais, un tel qui l'a pris. Il me dit, mais t'es folle, lui prêter ta voiture, tu ne vas jamais la revoir. Enfin, il va te la bousiller, il conduit comme un fou. Enfin, bon, bref. Puis, maman est tombée malade. Alors là, ça a été le coup de massue, parce que moi, je devais partir en Italie terminer mes études. J'ai fait un vague aller-retour en Italie, c'est-à-dire que je me suis présentée à l'école, j'étais admise, et mon père m'a rappelé pratiquement deux, trois mois après ou 3-4 mois après en France. Donc mes études en Italie ont été avortées de façon assez lamentable. Ce qui fait que je ne suis devenue... j'étais plus que la fille à papa. Quoi.
Elle avait quel âge, votre maman, quand elle est tombée malade?
Elle est tombée malade à 46 ans et elle est morte à 54 ans.
Ah oui, très très jeune alors.
Oui. Et un cancer du sein aussi, mais bon, à l'époque, on ne soignait pas comme on soigne maintenant. Et puis, ça a été pris un petit peu tard, ça a été mal soigné, bien que, si vous voulez, mon père et toute la famille s'est groupée autour d'elle pour qu'elle soit le mieux traitée possible. Hein. Ce n'était pas nous qui étions en cause. Là. C'était bon, la médecine qui n'était pas aboutie comme elle l'est aujourd'hui, tout simplement.
Et puis, chaque cancer est différent aussi. Hein.
Et puis, chaque, comme vous dites, voilà, voilà. Et maman souffrait beaucoup de tas de choses parce que mon père était un être assez autoritaire, assez manipulateur. En plus, il avait pas mal de conquêtes féminines. Enfin, c'était un personnage un petit peu sulfureux, mais très attachant en même temps. Moi, j'étais complètement séduite par lui, hein, mais complètement. Et je le suis toujours. Je l'aime d'une façon immodérée. Et maman le savait. Et elle m'a dit sur son lit de mort, enfin 2 ans avant sa mort, mais c'était quand même son lit de mort, malheureusement. Elle m'a dit, tu sais, j'ai été jalouse de toi et je me rends compte qu'aujourd'hui, à quel point tu m'aimes. J'ai dit, oui, mais c'est évident que je t'aime. Elle m'a dit, mais tu ne te rends pas compte comment ton père te traite? Je dis, oui, quelquefois je le vois, je m'en rends compte. Elle m'a dit, mais d'un autre côté, il te détruit. J'ai dit, ça, j'en suis consciente aussi, aujourd'hui. Oui. Enfin, j'avais 23, 24 ans. Quoi.
Avec la maturité, vous avez compris.
J'ai compris tout doucement. Oh, il a fallu longtemps, vous savez, pour que je comprenne tout. Maintenant, je crois que j'ai à peu près tout compris, bien que, encore, il y a des zones d'ombre. Mais bon, mais mon cancer m'a délivré de tout ça.
Alors justement, parlons-en de ce cancer. Quand on vous l'a annoncé, d'abord, comment vous l'avez découvert et comment vous l'avez pris?
Je l'ai découvert pendant le premier arrêt à cause du Covid. Mmh. Quand on a fermé les magasins, qu'on nous a interdit de sortir, il fallait des machins, des feuilles et tout. Bon, j'avais bien vu que j'avais un sein qui était un petit peu qui bougeait, mais comme j'avais subi une opération très jeune de chirurgie esthétique à l'époque de diminution de la poitrine, parce que j'avais une forte poitrine, Je me suis dit, c'est les cicatrices qui tournent mal.
Oui, c'est vrai que ça aurait pu être le cas. Oui.
Puis je n'ai pas voulu le voir, hein, je crois. Vous savez, bon. Et puis un jour, je me suis quand même décidée, je me suis dit, il est quand même trop bizarre. Je m'étais cassé le poignet, il faut dire que je me cassais beaucoup d'eau, mais ça se dosse, mais ça c'est une maman, bon ben voilà, j'ai une mauvaise, j'ai des os pour eux, voilà, j'ai toujours eu ça, et ça continue. Et ben là, j'étais hospitalisée, donc je suis restée 2 jours, puis une nuit, une infirmière vient me voir et je dis, regardez un petit peu mon sein droit. Elle me dit, ah oui, il est bizarre. Ben, je dis, puisque je suis coincée à l'hôpital là pour 2 jours, vous ne pouvez pas me faire un... Elle dit, si, j'en parlais. Bon, et puis dans la bagarre, elle a oublié parce que c'était mon poignet qui primait tout. J'étais aux urgences hein, pour un poignet avec une double fracture. Et puis, ils m'ont posé une broche. Enfin, j'ai été opérée 2 fois. Donc, juste avant Noël, j'étais opérée 2 fois pour mon poignet. À Noël, il y a eu en janvier, il y a eu le premier Covid déclaré, donc on nous a tous interdit de sortir. Je suis restée 2-3 mois comme ça, comme j'avais 69-70 ans. Oui, bah, j'étais dans les gens qui restaient chez eux, quoi. Bon, puis au bout de 2-3 mois, je me suis décidée à en parler à mon médecin traitant quand même. Alors, il m'a observé, il m'a dit, il m'a dit, allez, tout de suite au laboratoire, faites une mammographie, etc., etc., allez voir le docteur Intel. Il m'a tout de suite mis en branle tout le truc, il m'a dit, il y a 9 chances sur 10 que ce soit un cancer. Alors, bon, je suis partie, mais tranquille, hein, j'étais pas... Le mot cancer n'est pas un mot qui me faisait peur, de toute façon. Et puis, comme vous dites, je devais le savoir.
Mais j'ai un peu l'impression, oui.
Oui.
Donc là, vous faites les examens, on vous le confirme rapidement, j'imagine?
Ah oui, 15 jours après, je savais que j'avais le cancer du sein et un cancer qui avait 2 ans et demi.
Ah.
Ouais, donc il était déjà bien avancé. Alors, moi, j'ai continué. J'ai vu, la chirurgienne m'a dit, écoutez... on va faire la chimio, on va essayer de réduire au maximum. Ensuite, je vais vous opérer de toute façon. Alors, au début, c'était un sein, après, c'était les 2 seins, après, c'était la moitié d'un. Enfin, on ne savait pas trop où on allait, mais moi, j'allais. Hein. J'écoutais rien, je faisais mon bazar comme dans un brouillard. Mmh. Alors là, le Covid, pour moi, il n'existait pas. Je ne savais même pas ce que c'était que ce truc.
Et la chimio, vous l'avez bien supportée?
Oui. Oui, j'ai tout supporté. Mais je crois que j'étais en état de tout supporter. De toute façon, je n'aurais pas bronché. On m'a dit mettre un casque réfrigéré pour les cheveux. J'ai mis mon casque réfrigéré pendant les 12 séances de chimio. J'ai jamais rien dit. Il y a eu une chimio ratée. On m'a envoyé à l'hôpital pour nettoyer l'espèce de bazar qu'ils vous posent sur la clavicule pour prendre la chimio. J'ai laissé faire et je suis rentrée en pleine nuit chez moi. Mon oncologue me téléphone dans la nuit en me disant « Vous êtes sûr que vous allez bien ?» parce qu'elle savait que je vivais seule et que personne n'allait m'aider. Ah oui, mais j'étais sûre de moi, mais je n'ai pas l'ombre d'un doute. C'est curieux, hein.
Moi, non, je pense que quelquefois, quand on se connaît très très bien, on sent ces choses-là.
Oui.
Et le casque froid, c'est pour éviter de perdre des cheveux, c'est ça?
C'est ça, oui.
Ça a marché?
Oui. Oui, en partie. Disons, je n'ai pas perdu toute ma chevelure, elle a repoussé très vite.
D'accord.
Mais de toute façon, j'avais décidé que je ne perdrais pas mes cheveux ni mes ongles. que j'allais en réchapper, que je n'allais pas avoir mal, que rien ne m'arriverait. Et tout s'est déroulé comme ça. Mais c'était... Écoutez, j'ai passé une année... Bon, ça peut faire sourire ou peut-être qu'on peut ne pas me croire, mais j'ai passé une année heureuse et tranquille. Bon, c'était un peu casse-pied parce qu'il fallait que je me lève à, il n'y a pas d'heure, bon, n'importe quand, parce que la chimio, c'était... Donc la chimio, j'y allais 3 fois par semaine, une fois voir l'oncologue, une fois faire la chimio et une fois voir un psychologue. J'avais demandé de voir un psy quand même. Parce que je savais qu'au niveau psychologie, j'avais beaucoup de choses à dire.
Alors vous allez me raconter ça, mais on marque une courte pause, Janine, si vous le permettez.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Jeanne.
Oui.
Alors c'est intéressant parce que d'un côté, vous me dites j'étais sûre de moi, je me sentais sereine, et vous me dites en même temps j'avais besoin de dire beaucoup de choses à la psy. De quoi avez-vous besoin de parler ?
De mon passé.
Ah.
De mon père, de ma mère, justement. Parce que si vous voulez, je me mettais toujours quand même en double. Je me disais, maman, à ce moment-là, c'était comme ça. À moi, c'est comme ça. Donc, c'est bon. C'est bon. Et on m'aide. C'est bon. Ça va aller. C'était ma mère qui m'aidait. Bon, j'ai décidé de le mettre sur elle. Il fallait bien que j'y donne un nom. Mais vous voyez, c'était... Mais la psy qui m'est suivie, elle m'a dit, c'est quand même un peu spécial, parce qu'elle m'a dit, c'est incroyable, la violence que vous avez en vous, et en même temps cet esprit complètement
serein.
Apaisé.
Oui, c'est ça. Oui. La force du mental.
Oui, la force du mental. Et c'est pour ça, la jeune femme qui a parlé tout à l'heure, il faut qu'elle y croie, la force du mental. C'est terriblement important, je pense. Enfin bref.
Vous prêchez une convertie, hein.
Oui. Mais la force du mental, elle a besoin un petit peu d'aide là, parce que bon, tout ça s'est passé. Oui, je fais après les rayons, on n'en parle pas, j'ai rougi, j'ai cloqué, j'ai beau. Mais c'était pas grave, tout allait bien, la vie était belle. Et puis, j'en suis sortie. On m'a dit, vous êtes en rémission, mais j'ai un traitement encore à prendre chez moi pendant 5 ans.
Mmh.
Et là, tout est redescendu, je dirais, ou reparti à la hausse, je ne sais pas comment le dire. Là, tout s'est compliqué. Ma vie a été beaucoup moins sereine.
Et oui, on relâche une fois que c'est passé, évidemment.
Ah oui. Et là, j'éprouve une peur du futur, de plus en plus forte. Bon, j'ai 71 ans maintenant, je vais sur mes 72. Et je me dis, bon, maintenant, bon, j'ai organisé ma mort, j'ai fait tout ça. Il faut que j'organise aussi, déblayer mon appart, donner à ma sœur ce qui lui revient de droit, même si je ne vois plus, c'est pas grave, on s'en fout. Il faut que je... Alors, j'ai mon petit chien aussi qui est en train de mourir. Si vous voulez, là, j'ai l'impression que je redescends.
Alors, ça me paraît complètement normal, parce que vous avez mobilisé toute votre énergie positive pour le combat.
Oui.
Et là, le combat s'est arrêté. Et ça fait un peu comme un soufflet. D'un coup, c'est pouf.
Oui.
C'est logique, toute cette énergie que vous avez mise dans cette positivité, dans cet optimisme, dans cette volonté de vous en sortir, il n'y en a plus besoin maintenant.
Ben oui.
Et c'est comme si vous vous disiez qu'est-ce que je fais ? J'ai plus rien à faire.
Et j'ai 72 ans, j'ai plus qu'à attendre la mort.
Alors je pense qu'il y a des choses plus sympathiques à faire et que vous êtes encore un peu jeune pour nous quitter.
Oui. Ben, je pense aussi que c'est pour ça que je vous appelle, parce que malgré tout, j'ai quand même encore un peu d'espoir. Hein.
J'espère bien. Alors votre toutou, j'en suis désolée, mais malheureusement, on sait hein, que leurs vies sont plus courtes que les nôtres.
Oui, malheureusement, c'est le troisième. Bon, je ne vais pas dire que j'ai l'habitude, ça va être terrible, parce que lui m'a accompagnée dans les moments très durs.
Et puis on ne s'habitue jamais.
Vous savez, quand j'étais hospitalisée, parce qu'il m'avait raté ma perfusion pour le taxol, enfin pour la chimio, pardon, j'ai dit non. Bon, c'est pas grave. Et j'ai passé la nuit à l'hôpital, je pensais qu'au chien. Hein.
Mmh.
J'ai dit, il faut que je rentre, mon chien m'attend.
Et, ils sont là,
et
ils
puis,
sont...
je ne veux pas qu'il meure tout seul. Parce que déjà, l'année dernière, il était malade.
Il a quel âge?
Oh, je suis 17, 18 ans. Oh là, j'ai la SPA, alors bon, j'étais...
Bon, ça, ce sont des choses normales de la vie. C'est triste, mais c'est normal.
Oui, hein. C'est vrai.
Tout ça, c'est voilà, à ne pas mélanger, parce que je pense que vous faites un cancer blues, comme on fait un baby blues, vous savez.
Exactement, exactement. Mais alors ça, le mot est parfait. Oui, exactement ça, un cancer blues. Ben voilà, franchement, hein, je suis vraiment un peu cinglée, moi. Un cancer blues. Ah oui.
Je crois pas que vous soyez cinglée, Jeanne. Bien au contraire, je pense que vous avez mis tellement de force dans ce je vais pas dire ce combat parce que ça n'a pas été un combat, dans cet accompagnement à vous-même.
Ah oui, j'avais confiance. D'abord, je sais pas pourquoi, je me suis dit de toute façon. Alors, je me suis dit beaucoup de choses. Je me suis dit, j'ai quand même réussi à joindre ma sœur et je lui ai dit, elle était au courant. Puis elle me dit. Elle me dit, zut, elle a 10 ans de moins que moi, elle est beaucoup plus jeune que moi. Elle me dit, zut, si ça tombe, moi je l'ai attrapé aussi. Ah, je dis, non, n'aie pas peur, moi je l'ai eu, donc tu ne peux pas l'avoir. Il fallait que ça tombe sur l'un de nous trois.
On en revient à ce côté, il faut que je y a pas de raison que je ne l'ai pas, puisque maman l'a eu, il faut que je paye aussi. Quoi.
Dans ma tête, il fallait que ce soit moi qui paye, oui.
C'est bien pour ça que depuis tout à l'heure, je vous dis, je pense que vous l'attendiez. Et que c'est pour ça que vous avez su l'accueillir et le gérer, finalement. Ça n'a pas été un si grand choc, une si grande surprise que ça.
Non, non.
En revanche, pendant un an, vous avez occulté tout le reste. Et c'est normal.
Tout le reste.
Et maintenant qu'il n'y a plus ça, c'est comme s'il y avait un grand vide autour de vous. Mais ce n'est pas vrai. Ce que vous avez occulté existe encore. La vie est toujours là autour. Hein. Et malheureusement, le Covid est toujours là aussi. Je vous l'apprends.
Ben oui, c'est ça qui m'a fait le plus. Non, parce que, vous voyez, j'ai quand même vu des gens pendant cette année. Bon, j'ai une amie qui est tombée très gravement malade. J'ai des gens qui sont décédés autour de moi. Et puis, bon, là, j'ai mon petit chien qui va décéder. Et je me retrouve complètement seule, quoi. Mais alors, complètement, hein, seule de chez seule. Alors, je me dis, il faut que je me raccroche à des trucs. Et alors j'essaie d'aller vers les associations, ça j'ai déjà fait, je suis allée là. Bon, puis après les associations c'est la pagaille. Je me rends compte que c'est la pagaille partout maintenant. Les gens ne savent plus où donner de la tête, on a l'impression que la fin du monde est proche, que tout va éclater là.
N'exagérons rien non plus, je pense que vous voyez peut-être un peu les choses en noir.
Non, je dis en rigolant. Hein.
Jeanne, vous serez très fâchée si on marque une seconde pause?
Oui, bien sûr.
Comment ça, oui, vous serez fâchée? Non, vous ne serez pas fâchée.
Non, je ne serai pas fâchée.
Bon, alors, on la marque tout de suite et je vous récupère dans une poignée de secondes. Merci.
D'accord.
Leclerc.
Oh, j'adore la rentrée. Un élève, 4 pages de fourniture.
M'en parlez pas, j'ai la même liste. Heureusement, il y a plein de promos pendant l'opération rentrée.
Ah bon?
Regardez, 45% de réduction sur le lot de 300 feuilles A4 de la marque Esquisse de sélection d'experts. 1,04€ au lieu d'1,90€ et fabriqué en France.
Oh, vous êtes un pro, vous. Je vais vous suivre. Allez, plus que 200 trucs à trouver.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 3 août au 4 septembre. Modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Jeanne,
oui,
vous voyez,
oui,
ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est qu'on se rend compte à quel point chacun vit la maladie différemment. Et chacun c'est vraiment quelque chose de très intime, la manière dont on reçoit la maladie, dont on la gère, dont on en sort. Je crois que c'est vraiment un chemin extrêmement intime et très différent d'une personne à l'autre.
Ah oui. Oui, parce que j'ai été à un groupe de parole, là j'ai quand même réussi à contacter la société anti-cancer de la ville où je suis, et j'étais à un groupe de parole et je ne me suis pas du tout retrouvée dans ce que disaient les autres, pas du tout, parce que moi je n'ai pas vécu comme ça du tout. Donc je me suis dit, bon, il faut que j'aille vers des choses vivantes et pas vers des... Enfin, je veux dire... J'ai une façon de parler un peu brutale parfois, hein, quand je dis des choses vivantes, c'est pas gentil. comme si les malades n'étaient pas des gens vivants. Non,
je comprends l'intention de ce que vous dites.
Voilà. Non, mais on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui m'écoute, je veux dire, c'est un peu vache, quoi. Une dame qui a le cancer, bon.
Mais il faut que vous vous tourniez vers des énergies qui sont comme la vôtre, qui vous ressemblent, en fait, c'est ça, surtout.
Ben oui, alors là, j'ai téléphoné aux petits frères des pauvres, ils ont l'air de fonctionner encore. Donc, je ne sais pas, je vais peut-être les rejoindre. Mais je m'étais même dit, je vais aller faire des maraudes de cet hiver dans la rue pour donner à manger aux gens.
Faut être costaud hein, physiquement pour ça.
Oui, mais j'aime bien les choses quand c'est costaud et que ça bouge.
Bah écoutez, pourquoi pas. Et si vous aimez les animaux, vous savez qu'ils sont aussi beaucoup en demande hein, de bénévoles qui viennent s'en occuper, les sortir, leur faire des câlins.
Oui, mais là, ça me pose un autre problème parce que je ne conduis plus et je n'ai pas de véhicule par conséquent. Je ne conduis plus depuis mon accident dû à une chute plus ou moins volontaire après ma dépression.
Plutôt plus que moins, d'après ce que j'ai compris.
Oui, tout à fait plus, oui. Mais bon, ça, j'aime pas. Je veux plus en parler parce que pour moi, c'est guéri.
J'ai compris. C'est pour ça que je vous ai rien demandé.
Mon cancer m'a guéri, m'a délivré de tout ça. Il était bien. Enfin, je veux dire, il était bénéfique pour moi, ce cancer. Vraiment, hein.
Mais la maladie nous apprend énormément de choses, hein, évidemment.
Ah oui.
Mais aussi faut-il être capable de l'entendre et de le comprendre.
Oui. Puis comme vous dites, chacun a son chemin, sa vie arrive avec tous ses problèmes et tous ses poids. Et pour tout le monde, c'est pas forcément un cadeau, quoi, une maladie. Ça peut être un sacré choc aussi, ou complètement tout détruire. Parce que je me suis quand même posé la question les trois premiers jours. J'ai eu une crise d'angoisse très forte. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me laisse partir ou je me bats? Non, pas cet idiot ce que tu te poses là comme question. Bien sûr que tu te bats.
J'imagine que dans votre cœur, dans votre tête, vous parlez à votre maman. Qu'est-ce que vous lui dites de ce cancer-là, du coup?
Je lui dis merci de me l'avoir donné et merci surtout de m'avoir aidé à le battre. Et je suis très contente de l'avoir battu parce que maintenant, tu peux te reposer.
Il y a quelque chose de l'ordre de la réparation chez vous, hein, c'est marrant.
Oui.
Comme si vous aviez été en charge de réparer quelque chose dans cette famille.
Mais oui, parce que on m'a reproché, en fait, est-ce vrai? Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On m'a reproché d'avoir délaissé ma mère pour mon père. On m'a reproché, ma mère, en toute gentillesse, m'a fait comprendre qu'elle ne se sentait pas aimée par moi parce que je donnais trop à mon père. Moi, je me sentais très, 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 très bien avec mon père, à tout point de vue, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau mental, au niveau activité. J'aimais bien cet homme, je l'aimais très fort. Bon, donc j'aimais sa personnalité, tout. Je pardonnais ses maîtresses, j'en avais rien à faire de tout ça. Enfin, maman aussi. Hein. Mais si vous voulez, moi j'allais encore plus loin. Donc, oui, donc maintenant je me suis dit, bah, c'est normal que je paie ce moment de bonheur que j'ai eu trop fort avec mon père. Et qui ont fait souffrir, bon, mon frère, quand même, avoir une fille, une petite sœur qui a tous les avantages alors que lui. Rien. Et mon frère a fait une méningite tuberculeuse en étant très jeune. Donc il a un passé assez douloureux aussi. Et j'ai vu mon frère pleurer plusieurs fois en se cachant. Et c'était la petite sœur, c'est-à-dire moi, qui allait le réconforter en trichant, quoi, parce qu'il ne fallait pas que je le voie pleurer. Je comprenais, mais il ne fallait pas que je le voie pleurer. Il fallait qu'il se sente le grand frère protecteur, pas le petit. Voilà.
C'est vraiment intéressant tout ce que vous nous racontez, là, Jeanne, dans ce parcours de vie, dans ce chemin et dans cette comme si ce cancer vous avait permis d'expier quelque chose.
Exactement. Et de guérir et d'avoir enfin un petit peu de valeur à mes propres yeux.
Et donc évidemment, les années qui viennent vont être belles. La question ne se pose même pas.
Ben, elles me font peur parce que je m'en subitement et puis
oui,
j'ai plus personne.
Parce que c'est juste, c'est ce que je vous disais, c'est juste ce cancer blues. Mais une fois qu'il sera passé, ça va se remplir.
Oui, il faut que je passe le cancer blues alors.
Déjà, j'arrive à vous faire rire avec ça, c'est une bonne chose.
Je trouve ça super. Ah, oh, mais je vais ressortir le cancer blues. Je ne sais pas quel. Parce que des psys, j'en ai eu beaucoup, hein, vous imaginez. J'ai fui beaucoup de choses, vous savez. J'ai été hospitalisée. On m'a même mis en psychiatrie pendant 2 mois. Mais en vrai, psychiatrie. Puis j'avais 30 ans, donc ce n'était pas la psychiatrie d'aujourd'hui. Mais bon, bref, c'est du passé. Mais donc des psychologues et des psychiatres, je pense que j'en rencontrerai encore parce que j'ai besoin quand même, j'ai besoin d'eux. Mmh. Et le prochain je vois, je vais parler de mon cancer blues.
Mais ce que ça veut dire surtout, au-delà du trait d'humour, ça veut dire surtout que c'est temporaire. Et que ce vide, maintenant, vous allez pouvoir le remplir en étant libéré de beaucoup de choses.
Alors, ce qui me manque un petit peu, c'est aussi la force physique, parce que ça m'a quand même épuisée.
Ah ben, c'est normal. C'est normal.
Donc, vous pensez qu'avec un petit peu de repos encore, je vais repartir quand
même. Et comment ? Avec l'énergie que j'entends là, et comment vous allez repartir ? Vous allez prendre soin de vous, physiquement, moralement. Et dans quelques mois, vous allez me rappeler pour me raconter comment ça se passe. Parce que là, j'aurais adoré parler avec vous toute la nuit, mais il va déjà être minuit. Ça passe très très vite.
Oui, mon Dieu, ça passe vite.
C'est fou, hein.
Je suis ravie, en tout cas, j'aime beaucoup la façon dont vous voyez les choses. Plein d'auditeurs vous le disent, hein. Mais c'est pas... Franchement, c'est vrai. Hein. J'aimerais bien trouver un psychiatre, un psychologue qui vous ressemble.
C'est gentil, Jeanne. Il faut vraiment que je vous quitte, je vous embrasse très fort, mais promettez-moi de me rappeler pour me donner de vos nouvelles. Ça me ferait vraiment très plaisir. D'accord.
Dans un mois ou deux, quand je sentirai la vie reprendre un petit peu, j'espère.
Quand le cancer bleu sera parti.
Quand le cancer bleu sera parti.
Je vous embrasse très fort.
Moi aussi, je vous embrasse bien fort.
Au revoir, Jeanne. Merci à tous pour vos témoignages. On se retrouve demain soir à partir de 22h15 sur Europe 1 pour une nouvelle libre antenne. Et je vous quitte avec la phrase du jour. La discipline, c'est choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux vraiment. Bonne nuit et à demain.